Vous écoutez France Inter, il est 18h17.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec, à nos côtés ce soir, une des trois seules Françaises à avoir obtenu un prix Nobel. Et oui, elles ne sont que trois. Marie Curie, primée deux fois, sa fille, Irène Joliot-Curie, et notre invitée, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 pour ses travaux sur la découverte du virus du sida. Françoise Barré-Sinoussi n'est pas médecin, mais biologiste, chercheuse en virologie. Elle a fait toute sa carrière à l'Institut Pasteur à Paris avec de nombreuses missions, notamment en Asie et en Afrique, car le sida ne connaît pas de frontières. Françoise Barré-Sinoussi poursuit aujourd'hui son combat contre la maladie à la tête de SIDAction, car l'épidémie de sida n'est pas terminée, loin de là. Près de 37 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le virus dans le monde. On va évidemment en parler. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. Et pour terminer, les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir. Quand une chaussette perd sa moitié, quand elles ne vont pas par deux, comment refaire la paire? C'est la mission que s'est fixée l'association Soc en Stock dans le Nord. À 19h20, au téléphone sonne tout à l'heure, antisémitisme, racisme, que faire quand la haine fragilise la cohésion nationale et la démocratie? Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, n'hésitez pas.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Françoise Barré-Sinoussi.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, on est ravis de vous recevoir ce soir. Vous êtes
Merci.
Une de nos plus grandes chercheuses, spécialiste des virus et plus précisément donc du virus du sida que vous êtes parvenue à identifier dans votre laboratoire de l'Institut Pasteur en 1983. 25 ans plus tard, le 6 octobre 2008, le comité Nobel a annoncé que vous étiez co-lauréate du prix Nobel de médecine pour cette découverte. Et comme c'est France Inter qui vous a annoncé la nouvelle, eh bien, on va commencer par là. On va se remettre cet instant en mémoire. Vous étiez donc en mission au Cambodge lorsque votre téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, Daniel Messager de France Inter. On réécoute tout ça.
D'accord. La surprise, l'énorme surprise. J'étais bien loin d'attendre ce type de nouvelles. Je suis actuellement au Cambodge.
Vous êtes au Cambodge, là?
Oui, et j'avoue que j'étais à 100 lieues de m'attendre à cette nouvelle.
Vous saviez quand même que c'était dans l'air. Enfin, vous-même et Luc Montagnier, le virus du sida, forcément, à un moment, il fallait que ça arrive.
Ben, j'en étais pas convaincue, personnellement.
Alors, on connaît votre modestie légendaire, Françoise, mais quand même, le prix Nobel de médecine, là, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est tout drôle, à vrai dire. Je crois que je ne réalise pas encore. J'ai du mal à réaliser. Ça fait plaisir, bien sûr.
Françoise Barré-Sinoussi, vous avez réalisé depuis, mais c'est vrai que quand elle vous a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez blêmi, paraît-il.
J'ai d'abord pas cru, à vrai dire. J'ai pensé que c'était une fausse nouvelle.
Il paraît que vos collègues à Phnom Penh, ils sont inquiétés même
d'une
mauvaise nouvelle.
Ils ont eu un moment d'inquiétude parce qu'ils ont pensé que c'était une très très mauvaise nouvelle que je venais d'apprendre par téléphone. Et puis ensuite, ils ont compris et je dirais réalisé certainement beaucoup plus vite que moi, puisqu'ils ont eu le réflexe de me prendre mon téléphone en me disant « ça va, on va gérer
». En tout cas, vous l'avez écrit hein, dans un livre qui est paru il y a quelques années. Vous avez senti, au milieu de toute cette agitation, monter en vous une sensation de plénitude, parce que c'est quand même des années de travail.
Plénitude, mais surtout une sensation d'une reconnaissance, je dirais pas personnelle, une reconnaissance de toute la communauté, ce que j'appelle la communauté VIH-SIDA, qui se bat et qui se battait depuis des années. Et cette impression, elle a été peut-être d'autant plus forte que j'étais au Cambodge et que rapidement sont venues nous rejoindre un certain nombre de personnes vivant avec le VIH elles-mêmes pour m'embrasser, pour m'amener des fleurs. Et je me suis dit, bah voilà, c'est toute cette communauté-là qui est reconnue. Ce prix, c'est pas le mien, c'est notre prix. Et en même temps, je me disais, bah, quel lourd fardeau
quelle
sur mes
responsabilité,
épaules, parce
hein.
que maintenant, eux, ils vont attendre quelque part à ce que je sois leur voix. Et voilà, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire depuis 10 ans maintenant, et c'est particulièrement lourd.
Quand vous êtes rentrée à Paris, je sais pas, c'était quelques jours, quelques
C'était 24 heures après. Oui.
Bel accueil à l'Institut Pasteur. Hein.
Bel accueil déjà à l'aéroport avec avec toute mon équipe qui m'a fait la surprise d'être là à l'aéroport qui était très très ils étaient très très bruyants à vrai dire. J'ai même pensé que c'était des Africains qui arrivaient parce que souvent quand des familles africaines accueillent
ça fait du bruit.
Les leurs bon, ils sont un petit peu ils chantent, ils dansent et je me suis dit tiens, il y a un accueil d'une famille africaine et à la porte s'est ouverte et j'ai vu toute mon équipe qui était là et qui scandait et bien sûr mon nom etc et c'était absolument émouvant, très 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 émouvant.
Après vous êtes allé chercher votre prix à Stockholm.
À Stockholm, c'est la semaine un peu magique de Stockholm puisque c'est une semaine entière le prix est remis. Une soirée suivie d'un banquet, mais c'est une semaine très très lourde avec beaucoup d'interviews par des médias bien sûr, mais avec aussi des rencontres de jeunes dans les écoles, dans les lycées en Suède, et donc c'est une semaine particulièrement bien organisé. Je veux dire, j'appelle ça la semaine magique parce que on a l'impression d'être sur un petit nuage pendant toute cette semaine à Stockholm, avec sa propre voiture, son propre assistant, des choses dont on n'a absolument
monde,
pas l'habitude lorsqu'on est chercheur.
Voilà. Et à Stockholm, où vous avez d'ailleurs retrouvé Jean-Marie Le Clézio puisqu'il a été couronné du prix Nobel de littérature la même année.
Tout à fait. Nous étions effectivement ensemble à Stockholm. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup sympathisé avec lui.
Alors, Françoise Barrichine, si vous avez dit tout à l'heure, lourde responsabilité hein, quand on reçoit un tel prix. Mais est-ce que ça vous a donné plus de moyens pour vos recherches? Est-ce que ça vous a donné une forme d'autorité sur le thème donnez-moi les moyens quand même de continuer mon travail.
Donner les moyens, certainement pas. J'ai même une anecdote qui va en sens inverse, puisque un des chercheurs de mon équipe avait fait une demande de financement et la réponse qu'il a reçue m'a beaucoup inquiété, étant donné que son dossier était extrêmement, enfin bien classé, dans les premiers, et que la réponse était...
On vous a quand même pas dit, vous avez le Nobel, donc vous n'avez plus besoin d'argent, on vous a quand même pas dit ça.
Si, on lui a dit, votre dossier était excellent, mais étant donné que vous êtes dans une équipe reconnue au niveau international, qui a certainement beaucoup d'argent, eh bien, on vous met en dessous la barre.
Un peu dur, hein, quand même.
Alors bon, finalement ils l'ont pas fait parce qu'on a beaucoup réagi et que c'était totalement injuste. Mais vous voyez que ça peut faire aussi l'effet inverse, à vrai dire.
En tout cas pour vous, Françoise Barrichine aussi, il y a clairement un avant et un après Nobel. Ce prix, il a changé les choses.
Ce prix a changé beaucoup de choses. J'ai certainement pas pu les dernières années avant que je parte à la retraite être très présent au sein de mon équipe comme je l'aurais souhaité.
Mais en raison des missions que vous aviez, c'est ça?
En raison, oui, de beaucoup de déplacements à l'étranger, en raison de pas mal de missions, tant de coordination, d'expertise ou de conseils scientifiques que de conférences un petit peu partout dans le monde, d'essayer de porter la voix aussi justement des personnes vivant avec le VIH, parfois au niveau d'autorité d'un certain nombre de pays en Afrique ou en Asie par exemple, et que tout cela laissait peu de temps pour mon équipe. Mais comme je dis tout le temps, heureusement que finalement ce prix Nobel, on le donne pas lorsque les chercheurs sont trop jeunes, parce que
il faut les laisser travailler.
Finalement,
après,
il faut mieux les laisser travailler et sur une fin de carrière. Bon, Dieu merci, j'avais une équipe déjà assez bien organisée avec des chercheurs seniors qui étaient tout à fait capables de continuer le travail de l'équipe.
Alors, on va revenir sur ces travaux de recherche, sur comment vous êtes arrivé à tout ça, Françoise Barrichine aussi évidemment. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine. C'est comme ça tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Sonia Leglen. Cette semaine, en France, il faut bien dire que le climat général était assez délétère, pour reprendre un terme utilisé par celui qui vient de quitter la mairie de Bordeaux, Alain Juppé.
L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Alain Juppé quitte la vie politique. Il préfère aller siéger au Conseil constitutionnel compte tenu du climat qui règne dans le pays. Pour preuve, les événements des derniers jours égrenés par le Premier ministre Édouard Philippe.
Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur des vitrines la mention Youn.
Il faut bien constater que la France va mal.
Pierre-François Veil, le fils cadet de Simone Veil.
On attaque les policiers, on attaque les symboles de la République, je veux dire l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'il faut s'étonner qu'on s'attaque à des icônes que sont maman et Ilan Halimi?
Les actes antisémites en forte hausse d'après le gouvernement qui voit un lien avec la crise des Gilets jaunes. Ajoutez à cela des menaces de mort contre des députés et un incendie qui a visé la maison de campagne du président de l'Assemblée nationale. Au Palais Bourbon, les chefs des différents groupes politiques ont affiché leur soutien à Richard Ferrand. Réaction du Gilet jaune, Jérôme Rodriguez.
La maison de je sais plus qui, là, le président a brûlé, mon Dieu. Alors là, minute de silence à l'Assemblée, gros soutien. Il y a des mecs qui perdent des yeux, les mecs qui se lèvent pas. Deux poids, deux mesures.
Samedi dernier, lors de l'acte 13, beaucoup moins de manifestants, mais encore des blessés. À Paris, devant les grilles de l'Assemblée, un homme a eu la main arrachée.
C'était une blessure grave, qu'évidemment je regrette. Je pense d'abord à lui.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Il y a eu une attaque, des gens qui manifestement voulaient rentrer dans l'Assemblée nationale. Les gendarmes se sont retrouvés à un moment donné encerclés face à une foule très hostile.
Le Black Bloc, on commençait à chercher la merde un peu et...
Hey, c'est pour vous qu'ils font ça! C'est pas pour eux, c'est pour vous!
On sait pas s'en débarrasser, ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps, c'est pas des gilets jaunes. Le mec il fait des conneries, ça justifie de lui arracher une main.
L'avocat du blessé, Maître Arié Halimi.
Il a simplement essayé de se protéger en mettant sa main en protection devant lui. Et c'est à ce moment-là que la grenade a explosé.
Les gilets jaunes plus réceptifs que le reste de la population aux théories du complot, si l'on en croit une enquête IFOP publiée cette semaine. Confirmation dans le cortège parisien.
Je suis mon propre média. On peut se questionner. Moi, je ne suis pas complotiste, je suis questionniste, c'est tout.
Questionniste, même pour l'attentat de Strasbourg qui a fait plusieurs morts en décembre.
Pour discréditer un mouvement, le gouvernement peut être capable de tout, quoi. Pourtant, il y a eu des victimes et tout, hein.
L'attentat, un mec qui passe les barrages avec une Kalachnikov. Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.
À la une également cette semaine, l'affaire de la Ligue du LOL où comment de jeunes journalistes ont harcelé des consoeurs sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux ont été sanctionnés, mais pour la militante féministe Laure Salmona, le mal est fait.
Tous ces hommes de la Ligue du LOL, ils ont en fait pris la place de toutes ces personnes qu'ils ont cyberharcelées. Ça participe à maintenir les systèmes de domination, à maintenir le système patriarcal.
Racisme, antisémitisme, théorie du complot, violence, cyberharcèlement, sympa l'actualité de la semaine. Dans ces conditions, on laissera le mot de la fin au dessinateur Tommy Ungerer qui vient de nous quitter. Lui, qui dessinait pour les petits et les grands, avait décidé de dire la vérité aux enfants.
Qu'est-ce que ça veut dire écrire des livres pour enfants subversifs ?
Mais c'est simplement de ne pas fermer les yeux sur la réalité, de montrer aux enfants que ce monde est tout à fait imparfait, que nous sommes dans un monde qui est souvent pourri.
Et encore merci à Sonia Leglen pour cette actualité un peu morose, faut bien le dire. Qu'est-ce que vous en retenez, Françoise Barécine aussi ?
C'est vrai que tout ça est bien triste de voir ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'il est grand temps que nos autorités comprennent que ça n'est pas simplement parfois une question de compréhension et de dialogue et de communication. Je crois qu'il y a dans notre pays un pourcentage significatif de la population qui souffre. Et ça, il faut absolument, effectivement, qu'il y ait des actions en faveur de ces gens.
On entendait parler là de la Ligue du LOL, le machisme ambiant dans certaines professions. Je voulais savoir si ça existait chez les chercheurs.
Ça existe, bien sûr, ça a existé même de façon beaucoup plus forte autrefois, à l'époque où moi j'ai commencé, il y a plus de 40 ans, à l'Institut Pasteur. il y avait extrêmement peu de femmes à des postes élevés à l'Institut Pasteur. Et je me suis même fait dire par un responsable de Pasteur à un moment qu'il fallait peut-être que je réfléchisse à réorienter ma carrière parce que les femmes dans la recherche, ça n'avait jamais fait grand-chose d'important étant donné qu'elles étaient là pour s'occuper de la famille. Donc les choses ont quand même bien évolué depuis, Dieu merci, et aujourd'hui dans une maison comme Pasteur, il y a à peu près 50% de professeurs hommes et 50% de professeurs femmes, ce qui est très bien. Mais quand même, il reste quand même encore beaucoup de travail.
Un autre sujet qui était abordé dans ce petit résumé, c'est le complotisme. C'est vrai que c'est quelque chose auquel les scientifiques aussi sont confrontés. Et dans l'histoire du sida aussi, certains ont pu crier au complot à une époque, Françoise Barré-Sinoussi.
Au complot, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça.
Dans certains pays d'Afrique, en tout cas, certains ont pu imaginer que c'était une maladie qui avait été inventée par certains.
Je pense qu'il y a eu, dans l'histoire des personnes qui malheureusement étaient touchées par ce virus. Parce qu'ils appartenaient à des populations à risque, notamment je pense à un homosexuel américain qui ne savait pas comment dire à sa famille qu'il avait contracté ce virus et parler notamment de son homosexualité. Donc il y a eu des personnes qui ont inventé des histoires, je parlerai pas de complot, c'est simplement un moyen pour faire accepter finalement son infection et sa maladie auprès de ses proches et de ses amis. Et ça, c'est tout ce qui caractérise cette infection VIH depuis le début des années 80, cette stigmatisation, discrimination des populations les plus touchées, qui reste encore toujours très présente aujourd'hui, même si on a un petit peu progressé. Mais quand même, ça reste un des gros obstacles et c'est pour ça que ça peut créer effectivement des situations comme celles que vous décrivez, mais peut-être pas parler de complot.
Pas parler de complot. Pour effectivement en revenir à ce que c'était au début des années 80, c'est vrai que c'est une maladie à laquelle on ne comprenait pas grand-chose. On savait que certaines populations étaient touchées, que ça provoquait un effondrement des défenses immunitaires. Comment avez-vous travaillé, vous, Françoise Barré-Sinoussi ? Vous avez travaillé avec des praticiens, notamment le docteur Rosenbaum, c'est ça qui vous a procuré un ganglion infecté pour que vous puissiez faire vos travaux ?
Je crois que nous avons eu une réunion tout à fait déterminante justement avec nos collègues cliniciens, Willy Rosenbaum, Françoise Brun-Vézinet, Christine Rousiou, qui a été un échange tout à fait fructueux entre justement cliniciens et chercheurs. À savoir la description, l'observation par les cliniciens de ce qu'ils voyaient chez les patients nous a permis justement de faire le choix du premier échantillon pour essayer d'identifier le virus responsable et puis de faire le choix aussi du meilleur moment. Prendre un patient et un échantillon d'un patient en phase terminale de la maladie, très vite nous on a dit mais c'est pas possible quoi, il faut essayer d'avoir un patient à un stade plus précoce.
Et effectivement, donc vous avez eu un échantillon que vous avez mis en culture,
voilà, du ganglion où on a isolé les cellules, mis en culture, eh bien, c'était la bonne approche. Et on avait aussi dans les mains les technologies, je dirais, qui avaient bien évolué à l'époque et qui nous permettaient de faire croître, de faire pousser ces cellules ganglionnaires dans la culture au laboratoire.
Alors cet échantillon, vous l'avez surveillé comme le lait sur le feu. Et puis un beau jour, vous avez...
Tous les deux jours...
Vous avez compris qu'il se passait quelque chose.
Et on a compris... assez vite d'ailleurs qu'il se passait quelque chose parce que il y avait une enzyme et une activité enzymatique caractéristique de cette famille de virus qui était détectée dans la culture et que très vite aussi on a vu que cette culture commençait à mourir. Et là, il y a eu un moment d'angoisse puisque si virus il y avait et si les cellules disparaissaient, le virus disparaissait en même temps. Donc il y a eu un moment d'angoisse et à l'époque il y avait une banque de sang à l'Institut Pasteur et donc on a eu l'idée de courir et traverser la rue pour demander
prendre du sang, et vous
du
avez
sang d'donneur, mettre les cellules du sang de donneur dans la culture et de revoir le même phénomène se produire et de pouvoir maintenir ainsi le virus en culture et de commencer à le comparer avec d'autres virus et de s'apercevoir que c'était un nouveau virus.
Et donc, il y a eu cette fameuse publication dans la revue Science en mai 83. Je voudrais qu'on se remette en mémoire avec un extrait d'un journal de France Inter, ce que c'était qu'à l'époque, comment on parlait de cette nouvelle maladie. C'est un extrait d'un journal du 27 juin 1983.
SIDA, SIDA, les initiales de syndrome d'immunodéfense déficience acquise. Des initiales qui font peur, le SIDA est responsable de la mort de plus de 600 personnes aux États-Unis. Une maladie extrêmement mystérieuse, elle enlève toute défense à l'organisme qui devient ainsi vulnérable à n'importe quel microbe. Le SIDA, les Américains l'appellent le cancer gay parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas. Comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades, des croque-morts refusent d'enterrer, les sauveteurs refusent de faire du bouche-à-bouche. Les homosexuels deviennent aux États-Unis les nouveaux pestiférés. En France, 59 cas recensés. Chez nous aussi, une psychose est en train de naître. Écoutez cet homosexuel qu'a rencontré Jacques Expert.
Il y a une règle arithmétique assez simple, hein, qui est que plus les homosexuels multiplieront leur rapport anonyme, fugitif et répété avec des partenaires sexuels, plus ils multiplieront les risques. Mais je crois que c'est tout de même une manière de se défendre individuellement contre cette maladie qui risque effectivement de toucher un très grand nombre de gens si le type de sexualité que les homosexuels vivent depuis plusieurs années, c'est-à-dire une sexualité très multiple, très anonyme, très répétée, se poursuit. Il est évident que les risques eux-mêmes sont multipliés. Si on écoute un petit peu les conversations en privé, comme ça, dans les bars homosexuels, à Paris en particulier, on s'aperçoit déjà qu'il y a une préoccupation très très vive.
Est-ce que vous avez peur, vous, à certains moments ?
Oui, objectivement, moi j'ai peur.
C'est une autre époque, mais tout y est, là déjà, Françoise Barrissine aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de la lutte contre le sida ? C'est une maladie quand même qui a une particularité. Vous avez travaillé avec les malades, avec les associations de malades notamment.
Tout à fait. Dès le départ, finalement, dès cette rencontre avec Willy Rosenbaum et nos collègues, finalement, ça a été pour moi une nouvelle vision de la façon dont on peut faire de la recherche. Travailler en relation avec les cliniciens et le personnel soignant, et puis, bien sûr, en relation avec les personnes touchées par la maladie. Moi, auparavant, je travaillais sur des virus, mais des virus de souris, donc j'avais aucune occasion de rencontrer les personnes touchées. Et puis, par rapport à cette maladie qui est le sida, très vite aussi, après l'identification du virus, il y a des personnes malheureusement touchées qui venaient nous voir à l'Institut Pasteur, non pas pour une consultation clinique,
mais pour tenter de comprendre,
mais pour essayer de comprendre, pour qu'on leur explique qu'est-ce que c'était que ce virus, qu'est-ce que nous, les chercheurs, nous allions faire pour les débarrasser de ce virus. Donc c'était une période absolument tragique, dramatique et extrêmement stressante, je dois dire, parce que pour moi, chercheur, je n'avais pas l'habitude justement de cet échange avec des personnes qui étaient réellement très mal, à la fois, je dirais, d'un point de vue état de santé, mais aussi psychologiquement. Donc ça faisait très très peur.
Parce que c'était une époque où effectivement on n'arrivait pas à traiter.
Hein, pour l'instant, on parle d'une époque où il n'y avait pas de traitement. Donc à la fois, je dirais, les personnes étaient diagnostiquées avec ce sida. On encourageait les personnes à se faire tester dès que les tests ont été disponibles en 1985. Mais on n'avait rien à leur proposer.
Et cette maladie, à cette époque, a fait évidemment de nombreuses victimes. Et parmi ces victimes, le chanteur allemand Klaus Nomi.
Oh.
Cold Song, Klaus Nomi, sur la musique du compositeur anglais Henry Purcell, choix musical de Djoubaka pour une semaine en France, Klaus Nomi, qui est mort en août 1983.
France Inter, le 18-20. Claire Servagen.
On va dire un petit mot de votre parcours à vous, Françoise Barrécine aussi. Vous avez 72 ans. Vous êtes née, vous avez grandi à Paris dans une famille modeste dans laquelle il n'y avait ni chercheur ni médecin. Votre père était maîtreur vérificateur dans le bâtiment, c'est ça ?
C'est bien ça.
Maman au foyer, comme on disait.
Tout à fait.
Et vous, vous avez fait donc des études de biologie. Et puis très vite, vous avez eu envie de voir si vous ne vous étiez pas trompé de voie, en fait. Ce qui fait que vous êtes entrée à l'Institut Pasteur comme étudiante bénévole. En 71, en fait, vous vouliez vérifier que c'était...
Je voulais simplement m'assurer que j'étais sur la bonne voie et que plutôt que continuer des études où je ne voyais vraiment pas où j'allais, me retrouver dans l'ambiance d'un laboratoire et savoir à quoi ça correspondait finalement d'être chercheur. Parce que de vue de l'extérieur, on ne sait pas. Et vu de l'intérieur, par contre, tout de suite, j'ai réalisé que c'était bien ça. Et tout me semblait beaucoup plus évident, beaucoup plus logique dans ce que l'on pouvait m'apprendre sur les bancs de l'université par rapport justement aux besoins dans le laboratoire. Donc ça a été un déclic effectivement que de travailler dans ce laboratoire à l'Institut Pasteur.
Voilà, vous avez soutenu votre thèse de science en 74. Pendant toutes ces années, c'est le professeur Jean-Claude Sherman qui vous a encadré, qui vous a encouragé, oui. Qui vous a formé. Il se trouve qu'il n'a pas eu le Nobel et vous l'avez dit dans le livre que vous avez écrit, c'est une grande injustice.
Oui, pour moi, bon, on était une équipe et Jean-Claude faisait partie bien sûr de cette équipe et j'ai toujours pas compris, à vrai dire, pourquoi il n'avait pas lui aussi été reconnu par ce Nobel.
Ça, c'est un de vos regrets. Un autre regret, Françoise Barrécine aussi, ça je le sais, c'est que votre époux, quand vous avez eu le Nobel, n'était plus là pour partager cette joie avec vous.
Tout à fait.
Votre époux, c'est Jean-Claude Barré. Nous, on le connaissait bien ici,
voilà,
puisqu'il travaillait ici à France Inter.
Et malheureusement, il est décédé au mois de février, alors que le Nobel a été annoncé au mois d'octobre, donc quelques mois auparavant. Et je sais combien lui, il espérait ce Nobel, contrairement à moi qui n'y croyais pas d'ailleurs.
Il était technicien ici à France Inter. Jean-Claude, vous alliez fêter vos 30 ans de mariage. Jean-Claude, moi je peux le dire, c'était la crème des hommes avec sa barbe et ses sabots. C'était vraiment un technicien hors pair et un collègue absolument charmant. Un petit mot, Françoise Barré-Sine aussi, de l'état de la recherche sur le sida aujourd'hui. Ça fait 36 ans que vous avez découvert le virus. Il n'y a toujours pas de vaccin. Pourquoi ?
Oh, ça va être un petit peu compliqué à expliquer en quelques minutes, mais il y a multiples raisons. La première, je dirais, et on la met souvent en avant, on parle souvent de la variabilité très grande de ce virus du sida. Mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus important que finalement la recherche d'un vaccin sur le virus du sida nous a fait réaliser. La pauvreté de nos connaissances en vaccinologie d'une façon générale. Jusqu'à là, on pensait que finalement un vaccin devait induire des anticorps et que ces anticorps protégeaient. Voilà, on avait tout expliqué pourquoi les vaccins marchaient. Et grâce justement à cette recherche vaccinale sur le virus du sida, on s'est aperçu que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué dans la réponse justement du corps humain à un candidat vaccin et qu'il y a multiples acteurs qui sont à prendre en considération. Et justement, finalement, la recherche globalement en vaccinologie va avancer grâce à la recherche sur le virus du sida.
En attendant d'avoir un vaccin, donc la priorité, c'est les traitements pour les personnes qui sont contaminées. Combien de personnes qui vivent avec le virus dans le monde ? 37 millions à peu près ?
À peu près 37 millions aujourd'hui de personnes qui vivent avec le virus dans le monde.
Un virus qui a fait près d'un million de morts encore l'an dernier.
Près d'un million de morts encore l'an dernier. 1,8 million de nouvelles infections dans le monde, environ 6 000 nouveaux cas d'infection en France. Dans le monde, seulement 60% des personnes ont accès aujourd'hui au traitement. Donc le problème est bien loin d'être terminé et malheureusement, C'était un petit peu le message de la conférence internationale sur le sida de l'an passé, de ce bel objectif d'atteindre 90% des personnes infectées, de les diagnostiquer, de les traiter, 90% d'entre elles, et de leur permettre de contrôler leur virus chez 90% d'entre elles. Si on continue comme ça, on ne va pas y arriver.
Donc il faut des moyens.
Il faut des moyens. Il faut continuer à absolument les moyens, notamment le Fonds mondial. Cette année, nous allons recevoir en France la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Là, la France a un rôle à jouer absolument majeur, puisque la France, quand même, depuis le départ dans ce sida, a été un acteur important. Et là, elle a à nouveau un rôle absolument majeur à faire pour que cette conférence aboutisse justement à des objectifs qui vont tendre vers une amélioration de la prise en charge des patients, mais aussi de la santé globale.
Ça, ce sera en octobre et ce sera à Lyon. En tout cas, vous, Françoise Barrissinoussi, même si vous êtes à la retraite, je ne sais pas si on peut parler de retraite depuis 2015, vous poursuivez votre combat à la tête de SIDAction pour justement trouver des fonds.
Oui, SIDAction a 25 ans cette année, mais SIDAction poursuit effectivement sa mobilisation pour trouver des fonds à la fois pour la recherche, parce qu'il nous faut trouver les traitements de demain, il nous faut trouver le vaccin. Et puis, il faut continuer à soutenir le milieu associatif en France, mais aussi à l'étranger, en particulier dans les pays à ressources limitées. Donc, vous le disiez tout à l'heure, là, les associations, ces dernières années, ont pas mal souffert. Donc, il faut absolument, justement, pouvoir collecter des fonds pour soutenir aussi le milieu associatif, parce qu'on sait que la prise en charge communautaire, eh bien, ça marche.
Voilà, et ça, ce sera... On aura évidemment l'occasion d'en reparler à l'occasion de SIDAction. Ce sera dans un petit peu plus d'un mois. On va passer, Françoise Barrès-Sinoussi, à quelque chose de totalement différent. Parce qu'on a une rubrique dans cette émission, tous les vendredis, qui s'appelle Les Bonnes Ondes. C'est pour nous remonter le moral, surtout quand l'actualité
Il y en a besoin.
Est morose. Et c'est avec Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, vous allez nous présenter une drôle d'équipe des hommes, des femmes, qui deux fois par mois consacrent une partie de leur dimanche à trier des chaussettes, et oui, pendant que d'autres vont au ciné ou se promener, à chacun ses passions.
Ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais énervé contre ces satanées chaussettes célibataires. Vous savez, celles qui disparaissent, on fouille dans le tambour de la machine, pas de chaussettes, on espère le miracle, on cherche sous le lit et sous la commode, pas de chaussettes. Faute de résoudre cette énigme universelle, un jeune couple a décidé de récupérer toutes les chaussettes orphelines qui encombrent nos placards pour reconstituer des paires et les offrir à ceux qui ont froid aux pieds. La seule condition, bien sûr, c'est qu'elles ne soient ni élimées ni trouées.
Ok, je vois. Mais par définition, quoi de commun entre deux chaussettes isolées? On ne peut pas les marier n'importe comment.
Vous allez voir, ils ont trouvé la technique. Faut les voir faire. C'est très, très amusant.
Alors, les chaussettes sont bien sûr lavées et désinfectées. Ça s'appelle Sock en Stock. Cette drôle d'association a été fondée par Léa Gonzalez et Nathan Bouni. Elle est avocate. Il est économiste. Tous les trieurs sont bénévoles.
Si l'on collait une oreille contre la porte, on pourrait effectivement se demander ce qu'il fabrique.
C'est difficile quand même, jaune fluo.
Oh oh, tu l'avais pas celle-là? Tiens.
Oh, sublime, merci.
C'est la chasse au trésor.
Ah oui, là, vraiment.
On va pas y arriver.
Anna, une chaussette rouge à petits pois dans la main.
Il faut retrouver la même, parce que c'est rigolo de porter des chaussettes différentes quand on le choisit.
Il y a des moments où il y a de quoi s'arracher les cheveux.
Oui, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Le pire, c'est les chaussettes de sport avec des traits, un bleu, un rouge, un vert, et puis une autre, un rouge, un vert, un bleu. Ça, c'est énervant.
Je vais juste récupérer les chaussettes orphelines qui sont noires, noires.
Tiens.
Vous êtes devenue une pro de la chaussette.
Presque. Mais c'est des bleus, prends ça.
Merci.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça rééduque très très bien la mémoire. On manipule plein de choses. Et puis tout à coup on se dit celle-là je l'ai vue.
C'est comme le mémo là pour les enfants.
C'est comme le memory, oui c'est ça. C'est rigolo, c'est très ludique.
Dominique.
J'ai l'impression de peut-être moins perdre son temps que de rester à rien faire à la maison. On a l'impression que pour une heure ou deux, ça n'a pas été totalement inutile.
Pour ceux qui veulent, il y a une machine qui est finie.
D'une tonne de chaussettes triées en un an et demi, plus de 12 000 paires reconstituées, beau score, Léa Gonzalez, la fondatrice.
On trie par pointure. On a des toises, on arrive à dire, même si c'est pas écrit dessus,
avec une chaussette orpheline, quelle taille elle fait. Une fois qu'elle est triée par pointure, on la trie par couleur, par motif. Par exemple ici, dans les 43-46, du blanc, du noir. Dans le blanc, Sportville. Dans le noir, on a pareil, Sportville, Soquette. Et dans les annexes, on a ski, foot, rayé, bleu. Enfin voilà, tout un tas de sous-catégories, jacquard par exemple. Ce qui nous permet ensuite de les remarier en fait. Donc c'est un entraînement.
C'est parti comment ?
C'est parti à la base, moi je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. Voilà, mes placards c'est quand même assez bien rangé. Et il y avait toujours ce petit sac de chaussettes seules qu'on garde, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait j'en ai parlé un peu autour de moi et tout le monde m'a dit mais attends, mais moi aussi j'ai ce sac au fond du tiroir. Enfin, et là je me suis dit mais si tout le monde a ce petit sac de chaussettes un peu incompréhensible à la maison, je pense qu'il y a un truc à faire en fait.
Au départ je crois que c'était très rock'n'roll.
On était très très à l'arrache, on était dans notre deux pièces, il y avait des chaussettes qui séchaient de partout. Moi je pétais un câble.
On vous prend pas pour des dingues ?
Si, on nous prend vraiment pour des dingues. La plupart du temps les gens rigolent quand on dit ça. Après ils voient qu'on est totalement sérieux. En tout cas les seuls, donc il n'y a pas de concurrent.
En fait c'est à laver là-bas dans les bacs.
Tout ce qui est là-bas c'est des orphelines pour lesquelles on n'a pas encore retrouvé la petite sœur.
Comment vous êtes retrouvée là Virginie ?
En fait je me suis retrouvée là parce que j'ai découvert ce qu'on stocke sur internet.
Mais quand vous avez découvert ça, vous êtes dit quoi ?
Quelle bonne idée en fait, pourquoi pas y avoir pensé avant ? Je suis très étonnée de voir tous ces bacs, voilà c'est impressionnant, c'est vraiment chouette, c'est très belle initiative.
Parce que c'est vrai qu'on pense plutôt, bah, tiens on va aider en donnant une doudoune, une couverture, un gros pull, mais chaussettes ?
Oui, c'est vrai que les chaussettes j'aurais pas pensé, mais effectivement sans chaussettes c'est horrible. Rien que nous quand on a les chaussettes mouillées ou que voilà on n'a pas de chaussettes, c'est impossible en fait, ça fait partie de l'habillement de base. Mais justement c'est tellement du quotidien qu'on n'y pense pas.
On n'a vraiment pas beaucoup de 47-50, des grands pieds.
Tout à l'heure j'avais une grande...
Antoine, qu'est-ce que vous faites là ?
Les Nathan, c'est des voisins et je viens aider parce que je trouve que l'initiative elle est super. La chaussette orpheline, je trouve que c'est presque poétique.
C'est-à-dire ?
Moi j'imagine une chaussette toute seule qui est en train de pleurer dans son tiroir. Du coup c'est vrai que c'est sympa de se dire on recrée des paires, on redonne une vie aux chaussettes.
Et on évite surtout le gaspillage, rajoute Farah, une des trieuses les plus fidèles.
Je pense bien entendu aux démunis puis aussi à la planète. Les deux vont de pair.
C'est le cas de le dire.
C'est vraiment le cas de le dire. C'est du recyclage. Agir pour la terre, ça veut dire ne pas acheter. Acheter, acheter, vendre.
On a du bleu.
Alors on vous apporte les motifs.
Quel public va bénéficier de vos chaussettes ?
Alors on a une vingtaine d'associations partenaires, tout public confondu. Des vestiaires collectifs, donc pour sans domicile fixe, des camps de migrants, des camps de Roms, des foyers de toxicomanes. Les sous-vêtements, c'est un vrai problème.
Nathan, son compagnon.
Il y a plein de structures qui achètent aujourd'hui les chaussettes parce qu'ils n'en ont pas. Tout ce qui touche à l'intimité des gens, on n'ose pas aller donner ça à une association. Certains nous disent, mais vous gagnerez un temps fou à mettre des chaussettes qui n'ont rien à voir. Les gens nous disent, on s'en fiche d'avoir des chaussettes différentes. Mais non, on s'en fiche pas. C'est parfois un peu difficile de recevoir des chaussettes qui ont déjà été portées. Avoir des chaussettes propres qui ressemblent à des vraies chaussettes, ça permet de retrouver sa dignité parce que ça permet de se tenir debout. Les gobelets sont encore un peu trop vides. Les bouteilles sont là pour être bues.
Est-ce que vous avez percé le mystère des chaussettes orphelines ?
Tout le monde a des chaussettes orphelines, mais je pense que les machines mangent les chaussettes. Parce qu'il y a toujours, tôt ou tard, une chaussette qui ressort toute seule de la machine. On est sûr d'avoir mis les deux. Eh ben, on n'en ressort qu'une.
Les chaussettes, elles disparaissent comme ça. Elles sont vouées à disparaître.
C'est trop bien, Sandrine Houdin. Il n'y a que vous pour dégoter des initiatives pareilles. Hein. Soc en stock, qu'est-ce
Exactement.
Qu'on peut faire pour eux ?
Alors, surtout pas la rembouiller de chaussettes, parce qu'ils débordent, si je puis dire. Ils débordent, ils croulent sous les chaussettes. Ils ont besoin de trieurs, si vous êtes dans le secteur. Et puis, le rêve de Léa et Nathan, c'est que d'autres villes les contactent pour faire la même chose. Les chaussettes orphelines, évidemment, il y en a partout, peut-être chez vous, Claire.
Effectivement. En tout cas, c'est une activité comme une autre. Françoise Barré-Sinoussi, vous faites quoi, vous, à vos heures perdues, si ça existe, les heures perdues ?
Les heures perdues, il n'y en a pas beaucoup.
Parce que je sais que quand vous avez eu le Nobel de médecine, vous disiez que vous allez peut-être enfin prendre des vacances. Pas que vous n'en aviez pas pris pratiquement jusqu'à ce moment-là.
C'est vrai et c'est toujours un petit peu vrai jusqu'à aujourd'hui. Je dirais.
Parce que vous êtes toujours en mission, vous continuez ?
Je continue. Là, j'ai décidé d'être strict depuis 2 ans et de refuser toute nouvelle mission ou invitation. Donc cette année, je pense que je vais pouvoir partir enfin quelques jours.
Il paraît que depuis tout ce temps, depuis que vous travaillez sur le sida, vous avez souvent entendu des gens vous dire « vous n'avez rien d'autre à faire que de travailler sur cette maladie de PD ».
C'est vrai.
C'est vrai, ça continue ça encore ou pas ?
Non, c'est quand vrai, même, les choses ont changé. Je ne l'ai pas entendu trop ces dernières années, mais ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, pas sur ce ton-là, mais où effectivement, on peut me dire, mais enfin, bon, il y a quand même des sujets plus importants, comme le cancer, comme les maladies du vieillissement, etc. Pourquoi vous parlez toujours de cette maladie qui finalement ne touche que certaines personnes. Et ça,
ça a le don de vous énerver.
Ça a le don de m'énerver, d'autant plus que ça représente justement l'un des grands obstacles qu'on a dans cette épidémie, qui est le refus de l'autre et l'absence de tolérance vis-à-vis des autres et l'absence de respect tout simplement des droits humains. Et ça m'énerve beaucoup.
Surtout que c'est un frein, effectivement, au traitement et à tout ce qu'on peut apporter.
Oui, ça signifie, en plus, ça va en plus beaucoup plus loin que ça.
Un grand merci, Françoise Barré-Sinoussi, d'être venue nous voir ce soir
merci à, vous.
À France Inter. Bravo pour tous vos travaux. On vous entendra évidemment à nouveau d'ici un mois, au moment de Sidaction, puisque vous êtes la présidente de Sidaction. Dans quelques instants, le journal de 19h. Ensuite, le téléphone sonne ce soir. Antisémitisme, racisme, que faire quand la haine se déchaîne. Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.